Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. L'image du jour nous vient encore une fois ce soir du Liban. Emmanuel Macron masqué dans les rues de Beyrouth, au milieu de la foule, les rues dévastées de Beyrouth. « On ne vous laissera pas tomber », dit-il. Et en même temps, il tient un discours très dur à l'égard de la classe dirigeante libanaise. Il parle de corruption, il demande un changement de système. Il annonce qu'il reviendra en septembre vérifier qu'il y a bien eu des changements. Et la foule scande notamment ce slogan « Aidez-nous, révolution ». Alors quel rôle pour la France dans la reconstruction de Beyrouth et à vrai dire de tout le Liban? Pourquoi venir si vite après les explosions sur le port? Pourquoi tenir un discours si dur à l'égard des dirigeants? On parle d'un pays à terre économiquement où des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue il y a moins d'un an pour justement demander le départ de ces dirigeants. Macron dans le chaos libanais, c'est le titre de notre émission ce soir. Nous attendons vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Pour y répondre, 5 invités. Anthony Bélanger, journaliste, spécialiste des questions internationales. On vous entend notamment sur France Inter. Nadia Khoury-Daghlaire, vous êtes reporter et écrivain franco-libanaise, auteur de Beyrouth au cœur, c'est aux éditions de l'Harmattan. Vous avez également publié L'Islam moderne chez Hugo et compagnie. Antoine Basbous, politologue franco-libanais vous aussi, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le tsunami arabe, c'est paru chez Fayard. Et puis Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, à la une de votre journal aujourd'hui, Beyrouth le jour d'après. Et en duplex avec nous, Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Bonsoir à tous les cinq. Et merci d'être avec nous. Et avant d'aller plus loin, je vous donne le bilan encore provisoire de cette double explosion de mardi soir. 137 morts, 5 000 blessés, 300 000 sans-abri et évidemment des sauveteurs activement au travail. Un premier commentaire les uns et les autres sur cette visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron. C'est bain de foule, plusieurs bains de foule. Ces mots très durs, on est moins de deux jours après les explosions. Anthony Bélanger.
D'abord, je pense que Emmanuel Macron cherchait un peu son moment, vous savez, « You want me to go back to my plane ». Ou le moment tout simplement mitterrandien de François Mitterrand en 92 à Sarajevo, ouvrant un corridor humanitaire juste par sa présence, étant le premier Français, le premier chef d'État à se rendre sur une Sarajevo. C'était dangereux, Sarajevo était encerclé par des troupes serbes. Il y a, dans la tradition républicaine française de la Ve République, des moments présidentiels à l'international qui marquent un quinquennat, un septennat en entier. Emmanuel Macron cherchait ça. Il cherchait ça en plus à bon droit, parce que pour le coup, c'est le bon sujet, le bon pays, le bon moment. Le Liban est vraiment un ami profond et ancien de la France. Le peuple libanais nous est vraiment très proche. Il y a quand même 220 000 Libanais en France. Et donc, être le premier chef d'État à se rendre au Liban, c'est à la fois logique, puis un peu politiquement, c'est un peu habile aussi. Et enfin, c'est être au devant d'un malheur et donc à la recherche d'une image qui pourra enfin marquer de son empreinte la politique étrangère d'Emmanuel Macron.
Habile politiquement, Jannick Halimi, nous dit Anthony Bélanger.
Alors, pourquoi pas, habile politiquement. Après, il prend des risques, hein, tout de même. C'est vrai, comme le disait Anthony, ouais. Oui, il y a une certaine logique à ce que la France interviennent, on verra après les modalités de cette intervention, certains parlent déjà d'ingérence, hein, y compris sur la scène politique française. Je pense à Jean-Luc Mélenchon. Ouais. En tout cas, bon, il y a une certaine logique à ce que la France soit présente et tienne certains discours. Pourquoi ? On ne va pas revenir là-dessus, c'est une amitié et puis des intérêts historiques, stratégiques, économiques et financiers, culturels, qui datent, certains les font remonter au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Bon, en tout cas, de façon très institutionnelle, il y a eu le mandat français après la Première Guerre mondiale et puis après, il y a eu la présence française sans cesse réaffirmée.
Pourquoi dites-vous qu'il prend un risque ?
Il y a des risques. D'abord, tout simplement, je l'évoquais très rapidement, parce qu'on voit, les images, on voit les propos qu'il tient, on voit le ton des propos qu'il tient. Il va quand même, il ne va pas seulement rencontrer les forces institutionnelles, les pouvoirs en place, le Premier ministre, le Président de la République, il va carrément dans l'opinion publique, enfin sur le forum, dans l'agora.
Et dans un contexte de Covid, hein, on le rappelle.
Dans un contexte de Covid, et puis quelques semaines après, une mobilisation populaire certaine. Imaginez l'équivalent que ce soit le président de la République libanais ou peu importe, n'importe quel chef d'État étranger faire la même chose ici en France pendant les Gilets jaunes. Enfin, ouais. Évidemment, comparaison n'est pas raison et je fais l'analogie entre les Gilets jaunes et ce qui peut...
Il y a deux situations différentes.
Bien évidemment, ouais, mais ouais. C'est juste pour donner une tonalité, une musique. Imaginez le tollé que ça aurait pu représenter en France ou à l'étranger. Donc, il y a un risque de ce point de vue-là. Mmh. Et puis, Habil, effectivement, il y a peut-être un intérêt pour la France à tenter, à pousser ses pions, non pas pour la France en tant que telle, mais pour une sorte de tentative de relancer une sorte de dynamique de négociation de paix qui avait été mise en place par les puissances occidentales et puis par l'Europe, plus particulièrement pendant la guerre avec Daesh. Enfin, voilà, ça peut être bien vu. Mais sinon, les risques sont importants, encore une fois, parce qu'ils risquent la France risque de ne tirer justement aucun profit de ce déplacement. Et là, autant les gains peuvent être plus ou moins salués, autant s'il y a un échec, là je peux vous dire
qu'il sera souligné. Agnès Levallois, ce qui est marquant dans la journée, c'est qu'Emmanuel Macron a passé beaucoup plus de temps avec la foule qu'avec les dirigeants libanais.
Oui, alors je voudrais rappeler quand même que le président Macron avait le projet de se rendre à Beyrouth déjà depuis un certain temps, que son déplacement à chaque fois a été reporté parce qu'il estimait que les conditions politiques n'étaient pas réunies et que la classe politique au pouvoir au Liban n'était pas en mesure de mener les réformes souhaitées par la France pour débloquer une aide économique dont a tant besoin le pays, puisque, comme vous le savez, le Liban est en faillite aujourd'hui depuis maintenant plusieurs mois. Donc là, il a saisi l'occasion, si je puis dire, après ce drame, d'aller à Beyrouth pour montrer effectivement qu'il tenait son engagement d'aller dans ce pays, mais en dénonçant le comportement de la classe politique libanaise, puisque c'est celle-ci qui est quand même responsable de la situation actuelle, mais je pense qu'on va y revenir par la suite. Donc, c'est un voyage important pour Macron, qui aime ce genre de voyage, de montrer que dans un moment difficile, il se déplace, il n'a pas peur, et effectivement, il va au contact de la foule, et il est cohérent en allant au contact de la foule, alors qu'il dénonce le comportement de la classe politique, estimant que celle-ci, composée de mafieux pour beaucoup d'entre eux, ne sont plus en mesure de diriger ce pays.
Antoine Basbous, elle est bienvenue, cette visite, deux jours après les explosions.
Évidemment. Le président Mitterrand l'avait fait en 1983, au lendemain de l'attentat du Drakkar, dans lequel 58 martiens ont été tués. Et Chirac l'a fait en 2005, quand son ami Hariri avait été assassiné. Et le dénominateur commun de ces trois visites, c'était qu'en 1983, l'explosion a été imputée au Hezbollah, des Marsouins. En 2005, l'explosion, l'assassinat de Hariri a été également imputé au Hezbollah. Et cette fois-ci aussi, on retrouve les traces du Hezbollah dans cette affaire. On développera
ça plus tard.
Même si
pour l'instant, l'enquête, on va parler de l'enquête.
En même temps, le président Macron occupe la place, autant en France qu'au Liban. Aucun dirigeant libanais, aucun ministre, ni président, ni premier ministre, n'est sorti dans la rue rencontrer les gens, n'est allé sur place, n'a eu le courage de le faire.
Voilà. Il risquait les tomates et les œufs.
Le président Macron a tiré sur lui beaucoup de lumière et beaucoup de promesses. Est-ce qu'il va pouvoir les tenir? Il va falloir beaucoup d'énergie parce qu'il va rencontrer des résistances. Ce n'est pas seulement Mélenchon qui va lui résister, mais surtout ceux qui savent manipuler les bombes. En 2005, après l'assassinat de Hariri, le régime libanais pro-syrien, pro-iranien allait tomber, mais ils se sont redressés, ils ont repris l'initiative et au point de kidnapper le Liban et de le remettre entre les mains du Hezbollah. 2006, le Hezbollah prend l'initiative d'attaquer Israël, il le revendique, et puis depuis il contrôle
n'a fait que grandir.
Toute la scène libanaise, à commencer par le président de la République qui l'a fait nommer, le Premier ministre et son gouvernement, idem. Donc nous sommes en train de rencontrer une milice messianique qui a kidnappé un État, qui s'installe comme un État dans l'État.
On reviendra sur le Hezbollah, Antoine Basbous. Je voudrais qu'on reste sur Emmanuel Macron. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été accueilli chaleureusement.
Alors voilà, donc en fait, moi, je ne suis pas analyste politique. Moi, j'ai envie de parler du côté de ceux que Macron a rencontrés, c'est-à-dire de peuple libanais. C'est-à-dire que moi, je suis libanaise, je vis en France depuis l'âge de 8 ans, et je suis là un petit peu pour parler au nom de la diaspora libanaise, parce qu'au fond, le Liban, ça n'est pas 4 millions de Libanais au Liban, nous sommes 14 millions à l'étranger, on est un peuple de 20 millions d'habitants. Et ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que la colère de cette femme qui a interpellé Macron, la colère de ce peuple, elle est la mienne, elle est la nôtre, elle est, nous sommes des millions. Et je voudrais simplement témoigner de ce qui m'est arrivé après l'explosion. Enfin bon, moi j'ai eu l'info par notre groupe WhatsApp familial qui regroupe l'Égypte, le Liban. On est en lien avec nos cousins du Brésil, d'Australie, enfin voilà.
Ce qui raconte quelque voilà. chose du Liban.
Exactement, nous sommes vraiment le web mondial, on l'a presque inventé avant la lettre, et on est très solidaires. Et donc j'ai eu l'info une heure après par WhatsApp, j'étais immédiatement sur les sites de la BBC, sur les sites de la LBC, comme je suis arabophone, voilà, voir les reportages en arabe. Et la nuit est arrivée. Le lendemain, on était hier matin. Pour la première fois de ma vie, je me suis réveillée. J'avais pas l'énergie de prendre ma douche. J'avais pas l'énergie de m'habiller. Je me suis levée, j'ai fait un café, je suis revenue dans ma chambre, j'étais choquée, c'est-à-dire que comme si j'étais au Liban. Et la colère des Libanais aujourd'hui, c'est simplement une colère, enfin une hébétude. Et le problème, c'est qu'en fait, nous avons le sentiment d'être victimes d'une guerre qui a pris comme nom le visage du terrorisme. C'est-à-dire que qu'il s'agisse d'une négligence ou d'un acte délibéré.
Voilà, parce qu'encore une fois,
nous avons vécu une violence. C'est quand même la deuxième explosion après Hiroshima. Au niveau mondial, depuis Hiroshima, il n'y a jamais eu d'attaque de ce
explosion
type, d'explosion de ce type. Voilà, vous l'avez dit, 300 000 sans-abri. Moi, j'ai une amie on a des amis, en plus, voilà, qui sont même pas tout près. Elle a sa maison qui a été soufflée. Donc, je lui envoie.
Et en ce sens, la visite d'Emmanuel Macron était bienvenue.
Alors,
vous.
La visite était tout à fait bienvenue, ça me semble tout à fait évident. Son message est le message de ce que pensent tous les Libanais, à savoir qu'il faut changer la classe politique. Et en ce qui concerne l'aide, je peux vous dire que le message des Libanais, c'est n'envoyez pas d'aide au gouvernement, ouais. Passez par des ONG.
C'est une des questions.
Et j'ai ma cousine qui m'a dit ce matin au téléphone, ils sont suffisamment criminels pour rafler encore l'aide.
C'est donc, une des questions clés. À qui on doit
donner
l'aide ?
M. Macron, n'envoyez pas d'aide et passez par des ONG. C'est comme les républiques bananières d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Malheureusement, on en est arrivé là. Tellement la corruption est énorme.
On va y revenir. Les images de la journée d'Emmanuel Macron, cette journée, elle a commencé dans les rues de Beyrouth, dévastée, plusieurs bains de foule, le président en bras de chemise, au contact vraiment de la population, sécurité minimale, et puis des rencontres aussi avec des responsables politiques. L'ancienne puissance mandataire française veut prendre la tête de l'aide internationale au Liban, mais pas à n'importe quelle condition. Aubry Perrault, Laura Rado et Dominique Lemarchand.
Au plus près des lieux de l'explosion, pour mieux mesurer l'immensité de la catastrophe.
Quel gâchis.
Emmanuel Macron, ce matin, sur le port de Beyrouth, premier chef d'État étranger à faire le déplacement.
Bonjour à vous.
Merci. Bonjour.
Merci de nous accueillir, on est là.
Merci monsieur.
Une tragédie et des Libanais à bout qui interpellent quelques instants plus tard le président français. Tous crient leur colère contre une classe politique libanaise qu'ils jugent corrompue. Tous demandent de l'aide.
Différemment, je suis venu aider ce matin, je suis là aujourd'hui. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec eux.
Je vous remercie, monsieur le président.
Dis-leur.
Le président Macron au chevet des Libanais. La France, le Liban, une longue histoire d'amitié et de coopération. 1946, la France quitte le Liban à l'issue d'un mandat de la communauté internationale de 25 ans. Il faudra attendre 40 ans et un drame pour qu'un chef d'État français s'y rende de nouveau. Au lendemain de l'attaque de la base militaire Drakkar, François Mitterrand arrive sur les lieux, là où 58 parachutistes français sont décédés.
La France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements.
Celui qui entretient les liens les plus intimes avec le Liban, c'est Jacques Chirac, un très proche de l'ex-premier ministre Rafik Hariri. Le président français est le seul chef d'État occidental présent à ses funérailles.
Jacques et Bernadette Chirac, très émus, venus se recueillir sur la tombe de Rafik Hariri en compagnie de son épouse.
qui exige aujourd'hui, à juste titre, que toute la lumière soit faite sur cet acte abominable et inqualifiable.
Symbole de leur proximité, la famille Hariri mettra à la disposition du couple Chirac son pied-à-terre parisien à sa sortie de l'Élysée. 10 ans plus tard, c'est une crise diplomatique, cette fois, qui pousse la France à voler au secours du fils Hariri. Le chef du gouvernement libanais, convoqué en Arabie Saoudite, est poussé à la démission. L'intervention d'Emmanuel Macron auprès de Riyad permet à Saad Hariri de quitter le royaume pour rejoindre Paris.
La France a montré encore une fois la grandeur de son rôle dans le monde et dans et la région. Elle prouve son attachement au Liban et à sa stabilité.
Depuis, le ton a radicalement changé. En visite il y a une semaine, le chef du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, n'a pas ménagé les autorités libanaises. Face au marasme économique, des réformes profondes sont attendues. Un message réitéré cet après-midi par Emmanuel Macron.
Il faut justement que des initiatives politiques fortes soient prises pour lutter contre la corruption, pour imposer la transparence. Il appartient aux dirigeants aujourd'hui en place, par un peuple souverain, de mettre en œuvre ces décisions. Mais elles sont extraordinairement urgentes et elles doivent constituer pour moi un contrat politique nouveau qui est indispensable.
Au-delà de l'aide humanitaire d'urgence, la France pose ainsi ses conditions. Porte-parole des exigences européennes et internationales, elle promet en échange de continuer à soutenir la reconstruction du Liban.
Anthony Bélanger, Emmanuel Macron, donc chef d'État étranger, arrive au Liban, parle d'établir un nouveau pacte politique, il parle de corruption, il dit « je veux un changement de système », il dit « je reviendrai vérifier ».
Alors, il faut savoir que ça se passe très très mal entre Hassan Diab et Emmanuel Macron. Hassan Diab, c'est le Premier ministre libanais. Oui. Hein. Il y a quelques jours de ça, enfin le 26 juillet, Jean-Yves Le Drian se rendait au Liban et faisait à peu près les mêmes remarques en disant « pas d'aide européenne ni française, sans réforme structurelle importante, au fond ce que réclamait la rue pendant 6 mois, de octobre 2019 à mars 2020 ». Jean-Yves Le Drian s'en va. Et Hassan Diab se répand dans la presse libanaise et internationale en disant « Monsieur Le Drian n'a rien compris, cette visite a été inutile, la France ne sert à rien. » Et en fait, ils sont venus nous répéter qu'ils ne nous prêteront pas d'argent. Donc imaginez que 2 jours après ou 3 jours après, il y ait cette double explosion à Beyrouth et que vous vous retrouvez vous retrouviez nez à nez en tant que Premier ministre libanais après avoir dit ça de la France et du ministre des Affaires étrangères face à un président de la République qui vient vous faire la leçon, je pense que les rapports ont dû être glaciaux. Par ailleurs, ils sont aussi glaciaux avec Michel Aoun. Parce que Michel Aoun, le président de la République libanais, qui a 85 ans, qui a certes accompli son destin en devenant président de la République en 2016, enfin grosso modo, qui est le représentant de la bonne vieille politique, les bonnes vieilles combinationnées à la libanaise. Il a commencé par être un chef de guerre, puis ensuite il s'est exilé, puis il est revenu, s'est allié au Hezbollah pour devenir président. Cet homme, qui aujourd'hui est la clé de la coalition qui en ce moment dirige le Liban, eh bien, a détesté aussi les leçons que la France a données à la classe politique libanaise. Ouais. Emmanuel Macron est venu dans une espèce de sac de nœuds politiques. Et il a voulu à la fois faire la leçon aux politiques libanais pour avoir fait la leçon eux-mêmes à son ministre des Affaires étrangères, et ensuite parce que objectivement, il ne fait que reprendre à son compte ce que la rue a dit pendant 6 mois.
Et ce que disent la plupart des analystes.
Il suffisait de lire son tweet qui annonçait, au fond, sa visite au Liban. Que disait son tweet ? Son tweet commençait par dire « Je viens à la rencontre du peuple, le peuple libanais ». Et ensuite, il expliquait que peut-être il irait voir quelques politiques.
Il n'en demeure pas moins, Antoine Vazbous, ce ton, quand même, de donneur de leçons, d'une certaine manière, à l'égard de la classe politique libanaise, d'un chef d'État étranger qui arrive comme ça, 2 jours après un drame.
Le président Macron joue gros. Il a rallié l'opinion publique libanaise unanime, mais en même temps, regardez la profondeur de ce qu'il a dit. Il a dit « je veux proposer un nouveau pacte politique et je reviendrai le 1er septembre ». C'est quoi le 1er septembre ? C'est le centenaire de la proclamation du Grand Liban par le général Gouraud. Donc 100 ans de l'indépendance du Grand Liban dans sa forme actuelle, eh bien, le président Macron veut venir et vérifier et en quelque sorte proposer lui-même, peut-être en se référant au chapitre 7 du Conseil de sécurité de l'ONU, pour mettre en place quelque chose de nouveau.
– C'est quoi ce chapitre 7 ?–
C'est-à-dire quelque chose qui permet aux résolutions d'être, comment dirais-je, exécuté par la force. C'est-à-dire que le Liban est failli, que ce gouvernement est entre les mains d'une milice, que la FINUL, qui contrôle, qui est censée contrôler la frontière avec Israël, est empêchée de contrôler la frontière avec la Syrie. Donc tout l'armement, tout le dépassement de l'état de droit se fait à travers l'absence d'un état et la prise de contrôle de cet État par une milice.
Donc ce discours et ce ton sont justifiés de votre point de vue.
Sont justifiés, mais pas par rapport à tout le monde. Il y a le Hezbollah, il y a la Syrie, il y a l'Iran, il y a tout cet axe de la résistance, entre guillemets, qui ne peut pas supporter ce genre d'argument et qui ne veut pas, qui va tout de suite parler d'ingérence, qui va tout de suite parler de puissance étrangère.
De néocolonialisme.
Et ainsi de suite. C'est un nouveau colonialisme qui revient 100 ans après.
Agnès Levallois, une fois qu'on a dit ça, que peut faire la France? C'est-à-dire, quelle influence pour ce changement de système et quelle influence aussi pour activer l'aide internationale? Mais déjà, sur le changement de système, qu'est-ce qu'elle peut faire, la France?
Alors, je crois tout d'abord que ça n'est pas à la France de proposer un nouveau pacte politique. Je pense que ce sont aux Libanais eux-mêmes de le faire et que le mouvement de contestation qui a commencé en octobre dernier était justement la volonté des Libanais de sortir du pacte politique qui avait été mis en place après la guerre civile et que les Libanais souhaitent autre chose. Donc, la première chose que doit faire la France, me semble-t-il, c'est d'écouter les mouvements qui se sont mobilisés depuis octobre dernier, qui entendent mettre à bas ce système communautaire. Et je tiens à préciser que tous les partis politiques au pouvoir aujourd'hui sont d'accord entre eux. Il n'y a pas que le Hezbollah qui tient les manettes du pouvoir. Toute la classe politique, des chrétiens aux musulmans, en passant par les druzes, sont partie prenante de ce système politique qui existe depuis la fin de la guerre. Et donc, c'est ce système dans son ensemble qui est remis en question par les manifestants. Et donc la France, si elle doit faire quelque chose, et peut-être qu'elle doit faire quelque chose, c'est d'aider et dans tous les cas de laisser ce mouvement des citoyens libanais s'exprimer, ces citoyens libanais qui ne veulent plus de ce système et qui ne veulent plus d'un système communautaire. Je crois que c'est ça le message le plus important qui s'exprime aujourd'hui au Liban et qu'on ne peut pas faire abstraction de cette demande qui s'est exprimée en octobre, qui a été limitée après dans son impact à cause de la crise du Covid-19. Mais c'est vraiment ça qui est remis en question. Les Libanais veulent un État et veulent être citoyens d'un État. Ils ne veulent plus être membres d'une communauté et donc se référer à leur chef, leur zaïm. Et je pense que c'est vraiment ça que la France doit aider au-delà de tout ce que l'on peut dire. C'est ça, à mon avis, le message que Emmanuel Macron doit porter et qu'il a porté en partie en disant il faut que ce système politique soit remis en question. Et il a entièrement raison. Après, ça n'est pas à nous à déterminer, évidemment, les modalités de ce changement.
Antoine Masbous, un petit mot, et puis Nadia Kouridaghi.
Écoutez, il ne faut pas diluer le rôle du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est la tête de pont. Il a des marionnettes dans toutes les communautés qui sont là parce que c'est là le pouvoir. Et elles vont vers le pouvoir. C'est lui qui nomme le chef des chrétiens. C'est lui qui nomme le Premier ministre représentant des sunnites. Parce que c'est la puissance qui a contrôler l'État, qui contrôle les frontières, qui contrôle les institutions, c'est l'État dans l'État. C'est la seule formation qui détient des armes, des munitions, un service d'enseignement plus puissant que l'armée libanaise.
On a entendu le point de vue et on disait hier que l'armée israélienne se méfiait du Hezbollah. Nadia Kouridaghi, pourquoi une telle attente du Liban envers la France?
Alors, je suis entièrement d'accord avec Agnès Levallois. Je crois qu'il n'y a pas d'attente du Liban envers la France en général, mais moi je pense que, en fait, les Libanais, on a une caractéristique, c'est qu'on s'est tiré de toutes les catastrophes des leçons. Et effectivement, nous sommes optimistes. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que cette catastrophe mondiale va enfin pouvoir faire aboutir les revendications des Libanais depuis octobre. Parce qu'en octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un printemps libanais, d'accord, qui a lieu en automne. Mais en gros, on a vu la foule descendre dans la rue, toute religion confondue, toute classe d'âge confondue, toute classe sociale confondue. On a vu les bourgeoises chrétiennes avec des diamants, avec la fille voilée chiite, etc. Et ces gens réclamaient justement la fin du communautarisme. Il faut savoir que le Liban du 21e siècle, aujourd'hui, c'est la génération Facebook. Je ne suis pas amie avec vous parce que vous êtes de la même religion, je suis amie avec vous parce que vous partagez les mêmes idées.
Et donc là, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il pousse un peu plus dans ce sens-là.
Donc, moi, je n'ai pas envie de parler de Macron parce que je ne suis pas analyste politique une fois de plus. Je veux parler des Libanais.
On va en parler encore quelques minutes.
Non, mais les Libanais, en fait, je suis entièrement d'accord. Ça fait six mois, enfin non, d'octobre à neuf mois, comme un bébé, qu'ils réclament autre chose. On vire cette classe politique, donc Macron abonde dans leur sens. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, la colère de cette femme qui a agressé Macron, en fait, le Liban a faim. On ne peut pas imaginer, parce que moi, quand j'ai quitté le Liban, ça s'appelait la Suisse du Proche-Orient. C'était un pays avec des palaces. On venait s'y prélasser, d'accord ? Et c'était à la Côte d'Azur de la Méditerranée. Aujourd'hui, une amie me disait, tu sais, au début de la Révolution, les gens venaient de Tripoli, qui est une région très pauvre. Et aujourd'hui, j'en ai vu deux. Je leur ai dit, pourquoi vous ne venez pas ? Ils m'ont dit, on n'a pas l'argent pour prendre le bus pour aller à Beyrouth. Donc le Liban, aujourd'hui, cette femme, elle n'a probablement pas de quoi nourrir ses enfants. Il y a des familles qui font un repas par jour. Et donc le Liban, c'est tiers-mondisé. Et en fait, cette faim, en fait, on a un mouvement d'émeute de la faim, de colère du quotidien. Le quotidien est très difficile. Et moi, je pense que voilà, la politique, elle n'est pas mue par des hommes qui parlent et qui se baladent en avion ou quoi que ce soit. La politique, elle est mue par les peuples.
Oui, non, je voudrais juste dire qu'on peut effectivement applaudir, se féliciter d'un président de la République française qui joue un chevalier blanc au nom des droits de l'homme et puis poussé même par un besoin de démocratie exprimé par le peuple libanais. On peut revenir là-dessus. Après, on peut qualifier comme l'on veut et interpréter comme l'on veut la démarche même, concrète, encore une fois, sur la place publique avec un ton et des propos. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le risque politique que prend tout de même Emmanuel Macron là-dessus, est-ce qu'on ne va pas le taxer d'interventionnisme déplacé ? Donc les questions, que même si c'est au nom des droits de l'homme, et encore une fois poussé par une envie de démocratie, mais c'est quand même un chef d'État étranger, n'oublions pas ça. Donc la question qui risque vite de se poser au-delà du fait qu'on peut encore une fois que se satisfaire qu'un chef d'État d'une démocratie comme la France intervienne dans le cadre d'un gouvernement, tout le monde le dit, d'un système même, tout le monde le dit, corrompu, bloqué, etc., etc. Quel droit, encore une fois, a la France, le président Macron, la France, pour intervenir de cette façon-là, premièrement. Et deuxièmement...
Je voudrais citer les propos de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. D'où vient à Macron ce sentiment de toute-puissance ? Quel est ce ton ? De quoi menace-t-il ? Dans quelle aventure mène-t-il la France ? La Libye de Sarkozy n'a-t-elle pas suffi ? Bon, il fait de la politique.
Alors, la Libye de Sarkozy, c'était peut-être justement Sarkozy en Libye, justement. Ouais. Je pense que c'est ce à quoi devait faire allusion Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, si on met de côté quelle légitimité a Emmanuel Macron à le faire en termes politiques, quels moyens a-t-il pour aller au bout de son processus ? On se posait la question, il va revenir au mois de septembre pour faire quoi ? Quels moyens à la France ? Quels moyens juridiques ? Quels moyens politiques ? Et quels moyens financiers, tout simplement, à la France pour établir une sorte de suivi de son intervention ? Je pense que la France, Emmanuel Macron, a intérêt à réintégrer réintroduire le problème libanais dans un cadre beaucoup plus large en termes de règlement de conflit et d'en appeler à l'Union européenne, aux Occidentaux et à l'ONU, premièrement. Et n'oublions pas non plus que le problème libanais se situe dans un cadre beaucoup plus large de conflit régional, du Moyen-Orient avec Israël, et le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe, etc. Et puis le conflit avec Daesh, qui n'est pas très loin, un Hezbollah qui est extrêmement présent. Donc n'oublions pas quand même que Beyrouth est au cœur de tous ces rapports de force. Et Emmanuel Macron, je ne lui reproche rien du tout, je ne me permettrai pas de le faire, mais qu'il passe vite à une vitesse supérieure qui dépasse la France.
Alors, on en revient à cette question, Anthony. Oui. Que peut la France ?
D'abord, la France peut beaucoup, tout simplement parce qu'elle a abrité en 2018 une conférence de bailleurs de fonds qui s'appelait la conférence du Cèdre, qui a accordé au Liban une somme de 11 milliards de dollars, vérifiée par la France, notamment, si le Liban venait à se réformer selon les critères établis par un certain nombre de pays internationaux et de bailleurs de fonds. Depuis 2018, cette somme est bloquée. Elle est bloquée parce que le Liban n'a fait aucune réforme. De la même façon, la France fait partie de ces pays qui donnent beaucoup au FMI et qui ont une certaine influence au sein du FMI, qui est en train de discuter en ce moment avec le Liban d'un prêt de 10 milliards d'euros, pour le Liban donc, d'un prêt dont on discute depuis le 18 mai, c'est-à-dire depuis 3 mois. Sauf que depuis 3 mois, personne au Liban n'est capable de prendre la décision de faire les réformes que demande le FMI. Je ne discute pas de l'intérêt ou de l'opportunité des réformes du FMI ou même des réformes demandées par le Club de Paris au moment de cette conférence de 2018. Je dis simplement que cet argent attend la signature d'un homme politique ou d'une femme politique responsable au Liban qui sera capable d'imposer à la classe politique en général et surtout de prouver à la communauté internationale que cet argent est disponible et que les réformes en face peuvent être accomplies. Autrement dit, la France peut beaucoup, y compris d'un point de vue financier. Ne serait-ce que commencer à mobiliser cet argent qui est déjà promis, qui est cantonné et qui attend les réformes libanaises. Par ailleurs, je voulais dire, la France aussi peut beaucoup dans la région parce qu'elle a quelques alliés solides. Elle s'est visiblement mise du côté de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, de manière générale, dans une politique arabe, là pour le coup, très monarchie du Golfe. Les monarchies du Golfe, au Liban, ont depuis des années, réglé les fameuses factures et apporté l'argent qui manquait à l'État libanais. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que le Liban a survécu à lui-même. Il a permis à des puissances étrangères, notamment, je pense aux monarchies du Golfe, mais d'autres, de payer les factures, d'apporter les milliards. Il se trouve que cette alliance de Paris, de Riyad et d'Abu Dhabi est un moteur puissant, financier puissant et politique puissant pour faire avancer les choses au Liban, ouais, selon les volontés de...
On le voit.
De ces trois puissances.
On le voit
donc,
tous les jours.
Paris a des moyens à la fois financiers, politiques et diplomatiques de faire avancer les choses rapidement. Oui,
sur cette question, que peut la France ?
Écoutez, il y a une référence. En 2005, après l'assassinat de Hariri, c'est la France qui a introduit la création par le Conseil de sécurité du Tribunal pénal international. 2 mois après, l'armée syrienne était éjectée du Liban. Donc la France, quand elle met sa machine diplomatique en marche, elle est capable d'agir. Et puis, le président Macron donne l'impression de vouloir prendre la tête d'une coalition internationale de donateurs, en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'il réengage les pays du Golfe qui ont abandonné le Liban en considérant que c'est une colonie iranienne. Avec le Hezbollah, il n'y a rien à faire. Maintenant qu'il se réengage, il peut entraîner non seulement l'Europe, le FMI, les pays arabes, mais il faut qu'il y ait une feuille de route, une colonne vertébrale. On ne va pas reverser de l'argent aux mêmes pourris qui vont le voler. Donc il va falloir franchement beaucoup travailler jusqu'au 1er septembre pour trouver cette formule et réengager le Liban, lui donner un nouveau destin.
Agnès Levallois, que peut la France sur cette question avant d'en venir au sujet suivant ?
Je crois qu'avant de savoir ce que peut faire la France, il faut savoir que justement toute cette aide qui a été mobilisée pour le Liban maintenant depuis des années et qui n'a pas été effective est la démonstration du fait que ce système ne fonctionne plus et qu'avant de parler d'aide, il faut savoir quel est le devenir du système politique libanais, de ce que veulent les Libanais et qui au Liban est capable de porter une autre voie politique pour permettre de rendre effective cette aide qui est mobilisée depuis la conférence Cèdre jusqu'au prêt du FMI qui sont négociés actuellement. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des mouvements au Liban qui s'organisent, qui sont porteurs d'une autre voie, qui pour l'instant n'ont pas été beaucoup écoutés parce qu'ils apparaissaient un peu comme des ovnis dans ce système politique complètement verrouillé par les 6 chefs anciennement de guerre aujourd'hui. Du chef politique qui se distribue, qui se partage le pouvoir et les ressources économiques. Mais ce qu'il faut entendre aujourd'hui, ce sont ces nouvelles forces qui s'organisent, qui émergent, qui ont un vrai discours politique et qui proposent autre chose. Et il y a plusieurs mouvements dont on entend parler depuis maintenant des mois et qui sont vraiment des mouvements importants, intéressants, comme citoyens, citoyennes dans un État, comme le Bloc national ou d'autres sociétés civiles comme Beyrouth Madinati. Et donc je pense que ce sont ces voix aujourd'hui qui sont capables de porter autre chose. Et sortons de cette idée qu'avec le système tel qu'il existe, on pourrait éventuellement refaire quelque chose. Ça ne marche pas. Et on le voit bien avec toute cette aide financière mobilisée depuis 2018 et qui ne trouve pas des projets pour être investi, parce que tout le monde sait très bien que cet argent ne servira à rien, si ce n'est à être réparti entre ceux qui sont au pouvoir. Donc je crois qu'il faut qu'on change fondamentalement notre logiciel et notre façon d'aborder le politique au Liban aujourd'hui. C'est pour moi la question la plus importante.
En tout cas, 2 jours après la double explosion sur le port, la recherche d'éventuels survivants se poursuit dans des conditions évidemment très difficiles, et on mesure aussi chaque jour un peu plus l'ampleur des dégâts et l'ampleur du drame. Rémi Barjavel et Christophe Roch.
Dans les rues de Beyrouth dévastées, la solidarité s'organise. Dans ce quartier de la ville, les façades des bâtiments ont été soufflées. Tout a volé en éclats.
Ce qui s'est passé est tragique et c'est la première fois que nous voyons quelque chose de pareil au Liban. Les maisons sont détruites, les gens n'ont ni logement, ni travail, ni magasin. Alors que l'on traversait déjà une situation difficile, nous sommes frappés par cette énorme catastrophe.
Du port, il ne reste qu'un amas de ferrailles et de débris. Nuit et jour, des équipes de recherche se relaient pour tenter de sauver de potentiels survivants. Des bulldozers déblaient les décombres. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. 48 heures après les explosions, c'est une course contre la montre. Les équipes libanaises peuvent compter sur les secouristes venus du monde entier, comme ces Russes, arrivés la nuit dernière.
On a des informations selon lesquelles il pourrait y avoir encore des disparus sous les débris. On va utiliser toutes les dernières technologies pour essayer de trouver des survivants de cette tragédie.
La zone de recherche est immense. Pour comprendre l'étendue des dégâts, cette photo satellite avant et après les explosions. D'après les premiers éléments de l'enquête, la catastrophe est due à un incendie dans un entrepôt du port qui abritait près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium. Une substance à risque, saisie sur un bateau moldave en panne il y a 6 ans. Le directeur des douanes du Liban affirme avoir mis en garde les autorités contre les risques d'accident.
Nous avons alerté la justice à 6 reprises entre 2014 et jusqu'à récemment sur la nécessité de réexporter cette marchandise hors du pays, mais la justice ne nous a pas écoutés.
Ce matin, un comité d'investigation a été créé. Les autorités libanaises se donnent 4 jours pour désigner les responsables.
Celui qui sera coupable ou responsable de cette, pas seulement négligence, de ce crime de négligence, crime affreux de négligence, sera puni par un comité de juges.
Pas de quoi rassurer les Libanais qui n'ont plus confiance en leur classe politique. Ce drame vient fragiliser encore plus un pouvoir largement contesté dans un pays en faillite. Hier, un journaliste très connu a utilisé des mots durs pour appeler à la démission du gouvernement.
Vous êtes corrompus, négligents, destructeurs, immoraux. Vous êtes des lâches. C'est votre lâcheté et votre négligence qui ont tué les gens. Vous, criminels, vous, sauvages, vous, ignobles, nous allons cracher 1000 fois sur vous.
2 jours après les explosions, Beyrouth compte 300 000 personnes sans logement. Peu d'habitants misent sur l'aide de l'État pour reconstruire le pays.
Nous n'avons pas d'État pour prendre des mesures, donc parfois il faut les prendre soi-même.
J'ai 24 ans et j'ai vécu toute ma vie au Liban. Je n'ai jamais vu le pays détruit à ce point. Nous ne sommes pas organisés, mais nous allons nous unir pour nettoyer le pays de la corruption et des voleurs.
Alors que l'aide humanitaire s'organise, c'est la sécurité alimentaire du Liban qui est en jeu. Le port, totalement détruit, gérait 60% des importations du pays.
Anthony Bélanger, question téléspectateur pour vous. L'enquête sur l'origine du drame a-t-elle avancé ?
Alors, pour bien comprendre le système des enquêtes au Liban, il faut savoir qu'une enquête qui a commencé en 2005 jusqu'à la mort de Rafik Hariri devait se terminer il y a quelques jours, 15 ans plus tard.
Et le verdict est reporté.
Et le verdict en plus est reporté. Donc c'est vous dire un peu que la justice peut être sous pression politique, et donc sur des enquêtes de l'importance de celle que va mener aujourd'hui le gouvernement libanais. Ça dépend sur quoi l'enquête porte. Si l'enquête porte sur savoir ce qu'il y avait dans le port, depuis combien de temps c'était là, et qui était responsable, ça, moi je peux la faire d'après. après-demain. Si l'enquête doit porter sur l'ensemble des responsables qui, depuis 6 ans, ont maintenu 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans en plein cœur de Beyrouth, et que cette enquête monte assez loin pour montrer qu'il y a eu probablement pas mal de rapports qui ont été envoyés aux ministres et aux premiers ministres successifs pour dire que c'était tout de même un peu dangereux, ça, je peux vous dire que ça prendra plus de temps, ça prendra quelques années.
On est d'accord qu'à ce stade, rien ne mène vers la piste de l'attentat.
Rien ne mène vers la piste de l'attentat. Et clairement, il s'agit beaucoup, la plupart des hypothèses, toutes les hypothèses, on peut le dire à peu près sérieuses, parlent d'un accident. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement que ce soit un accident ou pas. C'est intéressant, c'est que les Libanais n'y croient pas. C'est-à-dire que d'ailleurs, comme beaucoup de peuples du Moyen-Orient, ils ne croient pas à la parole officielle. C'est dire l'état de défiance dans laquelle se trouve cette population face, ne serait-ce qu'à l'évidence, ou à ce que peut leur raconter un Premier ministre qui en plus n'est même pas qui ne fait pas partie du sérail politique habituel. Celui qui faisait partie du sérail politique habituel, c'était Saad Hariri, fils de Rafik Hariri,
Premier ministre chimique. Qui a démissionné dans la foulée des manifestations.
Exactement. Mmh. Mais monsieur Hassan Diab, lui, a été ministre de l'Éducation, était plutôt un scientifique. Il est venu là comme technicien. Et donc, quand il dit à la télévision ce qu'il sait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un accident de temps et que la presse, qui est très libre au Liban, il faut le savoir tout de même, la presse qui est libre au Liban, explique que ce stock de nitrate d'ammonium est là depuis 6 ans, eh bien, les Libanais n'y croient pas, ne croient pas à cette parole officielle. Et ça en dit plus peut-être que toutes les enquêtes ou toutes les suppositions qu'on pourrait avoir.
Antoine Basbous, il y a des victimes françaises, donc il y a une ouverture, il y a une enquête qui est ouverte par le parquet de Paris, donc il y aura une pression internationale. Est-ce que ça, c'est la garantie d'un peu plus de transparence et d'activité pour l'enquête ?
Il y a non seulement une enquête, mais il y a aussi des experts qui sont à Beyrouth et qui ont réuni des traces de l'explosif et des restes d'explosifs. Donc, il va y avoir en France, dans les laboratoires de la police spécialisée, une analyse de ce qui a provoqué cette explosion. Je crois qu'on se moque un peu de l'intelligence des gens en disant, en racontant cette version, un cargo qui allait au Mozambique, qui est tombé en panne en face de la rade de Beyrouth.
En 2013, qu'on a arrêté pour des raisons de sécurité, on a stocké le nitrate d'ammonium dans le port.
Voilà. Tout ça, sont des versions folles qui ne tiennent pas la route. Une enquête, une véritable enquête, ne doit pas être menée par les enquêteurs libanais qui sont aux ordres de l'establishment du Hezbollah.
Il faut que ce soit une enquête internationale.
Il faut que ce soit une enquête internationale. Et qu'est-ce qu'on va découvrir ? On va découvrir que, quand même, le Hezbollah, il a des centaines, 100 000 missiles reconnus. Il y a
va découvrir, on verra.
Non, mais ça, c'est établi, parce que Nasrallah lui-même le dit sur sa télévision.
On verra s'il y a un lien avec les explosions de mardi, okay. C'est ça que je veux dire.
Mais ce qui est établi, c'est que ce stock-là, sur lequel sont prélevées régulièrement des cargaisons de nitrate pour aller alimenter les usines de missiles, eh bien, tout le monde s'est couvert. Tous les gens du port, des douanes, se sont couverts en adressant des lettres au président de la République, au Premier ministre et au ministre concernés pour leur dire « Écoutez, il y a quelque chose qui est dangereux. »
Ça fait une négligence
personne
de plus.
Non, personne n'a osé toucher parce que
Il faut juste expliquer.
Anthony Bélanger.
Juste expliquer, c'est un petit peu technique. Pourquoi est-ce que ce nitrate d'ammonium pourrait être lié au Hezbollah ? Tout simplement parce que le nitrate d'ammonium est peut-être à la fois utilisé comme engrais et comme prémisse dans pas mal d'explosifs. Donc effectivement, vous avez 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui pourraient aussi bien servir à fertiliser les terres libanaises et à obtenir de très bonnes récoltes, et par ailleurs à servir de base à des explosifs. Sauf que la thèse que vous défendez, qui est que donc ce stock servait à alimenter des bombes artisanales du Hezbollah, sauf que le Hezbollah n'en est plus depuis très longtemps aux bombes artisanales. Il n'a pas besoin de ce nitrate d'ammonium pour faire des bombes artisanales dont il a abandonné la faction.
Ce ne sont pas des bombes artisanales, ce sont des bombes professionnelles. Les missiles arrivent en pièces détachées au Liban, il va falloir les charger.
Avec et donc le Hezbollah,
il a des experts qu'il envoie au Yémen qui mobilisent.
Je voudrais entendre Agnès Levallois sur cette enquête. Comment est-ce qu'on peut garantir une enquête la plus transparente possible ?
Écoutez, effectivement, une enquête est absolument indispensable pour justement savoir ce qui s'est passé et éviter des discussions à partir de ce que chacun pense ou croit ou projette de la situation sur place. Donc, une enquête internationale est absolument indispensable, avec des enquêteurs libanais, forcément, parce qu'ils sont sur place, mais d'autres enquêteurs. Et je crois que le plus important, là encore, c'est que le Hezbollah soit ou non partie prenante. Ce que l'on sait, c'est que ça fait 6 ans qu'il y a ce stock sur place dans le port et que donc toute la classe politique est concernée par le fait que pendant 6 ans, des rapports ont été faits, ont été déposés sur les bureaux des premiers ministres et des présidents qui se sont succédés. Donc, on peut dire aujourd'hui en toute transparence que toute la classe politique est mouillée ou en tous les cas a une responsabilité dans la négligence extrême qui a permis à des stocks pareils de rester pendant 6 ans dans le port de Beyrouth. Il ne s'agit pas de dire que c'est un groupe politique simplement qui est responsable, puisque durant toutes les années que ça a duré, on sait bien qu'il faudrait reprendre tous les ministres, tous les premiers ministres
beaucoup.
Et tous les présidents, il y en a eu beaucoup, pour se rendre compte que tous sont concernés, parce que je reviens à ce que je disais, il n'y a pas d'État digne de ce nom qui est capable d'assumer ses responsabilités d'État, et cela conduit non seulement à la faillite économique financière du pays, mais ça peut conduire aussi à un drame comme celui-ci. Donc je crois qu'il faut vraiment remettre la responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont véritablement responsables, et je maintiens, c'est toute la classe politique. Je crois que ça ne sert à rien de dire c'est un groupe. Il peut y avoir un groupe qui est peut-être essaye plus que d'autres, mais c'est l'ensemble de ce système qui est en cause. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aborder et sortir de l'impasse dans laquelle on est lorsque l'on parle du Liban aujourd'hui. Ça ne sert à rien de simplement stigmatiser un groupe. Il a sa responsabilité, mais tous les groupes politiques sont responsables de cette situation et de l'absence de l'État au Liban.
Sani Khalimi.
Je voulais juste rajouter très rapidement que la France a tout de même, de mon point de vue, un pouvoir de soft power, si je puis dire, justement au niveau des enquêtes, puisque malheureusement, la France compte des blessés et un mort, je crois, à la suite de pour le moment de cet accident.
Et
qu'il y a une enquête qui est ouverte à Paris. Donc là aussi, il peut avoir des éléments extrêmement importants, indépendants, à porter au débat dans les mois qui viennent.
J'allais juste dire qu'effectivement, elle a raison. Elle a raison de dire que le vrai scandale n'est pas tant de savoir qui est responsable, qui est allé piquer dans les stocks. Le vrai
scandale, c'est que ce soit resté six ans.
Et c'est le signe d'une incompétence crasse de l'État et des autorités libanaises.
On a vu les gravats dans le sujet qu'on a vu il y a quelques minutes, Nadia Khouri-Daghar, la solidarité, comment elle s'exerce ?
Alors justement, je voulais dire, Antoine Basbous disait, le Liban survit grâce à l'argent des pétromonarchies. Pas du tout. Ça fait environ 100 ans et même 2500 ans depuis que les Phéniciens voyagent que le Liban survit grâce à la diaspora, aux émigrés. Et en fait, il y a d'énormes transferts d'argent de ces millions d'émigrés de l'étranger vers le pays. Donc ça, peut-être, indépendamment de ce que peuvent fournir les pétromonarchies. Ce que je voulais surtout dire, et pour abonder dans le sens de ce que disait Agnès Levallois, sur l'absence d'État, elle n'est pas depuis 2 jours, depuis que la bombe a explosé, elle n'est pas depuis octobre. Pendant la guerre, et même depuis avant la guerre, quand j'étais enfant, je peux vous dire que tout le Liban, tous les services sociaux, santé, éducation, handicapés mentaux, c'est pris en charge par des ONG, des associations, des charity organizations, qui ne sont pas confessionnelles et que même si elles sont créées par une église ou par une mosquée, elles s'adressent à tout le monde. Et c'est très, très important de dire que quand l'église orthodoxe a des bénévoles, ils vont aussi aider les familles musulmanes. Que toute la guerre, les Libanais n'ont pu survivre que par ces associations et ces gens bénévoles. Ça, c'est une chose. Mais ce qui se passe aujourd'hui, avec la crise économique amplifiée par le Covid, c'est qu'avant, la classe moyenne, elle était bénévole, parce que moi, je suis prof, je suis comptable, n'importe quoi, je donne de mon temps pour être bénévole, aller aider les pauvres.
Là,
mais aujourd'hui,
possible.
C'est la classe moyenne qui aidait, qui est touchée et qui est complètement étranglée. Donc là, on a une situation. Voilà. Deuxième chose, moi j'aime bien les choses concrètes, l'absence d'État. Je vais vous donner un exemple. On est en France, il n'y aurait pas cette émission sans électricité.
Oui.
Au Liban, l'État fournit 2 à 3 heures d'électricité par jour. Le reste du temps, vous,
c'est des générateurs,
Bruno,
privés.
Voilà. L'eau, c'est pareil. Vous devez avoir de l'eau en citerne.
Donc
et en
la
plus
solidarité,
de l'eau minérale.
Elle sera...
Donc l'État n'existe pas. L'école, si vous êtes riche, vous payez 5 000 dollars par an pour votre enfant. Mais si vous êtes pauvre, vous allez à l'école publique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, et ça vraiment, c'est que des familles retirent leurs enfants des écoles privées. Donc là, on est. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça aberrant. On parle du Liban comme d'un pays du tiers-monde. C'est vraiment ça, cette misère. Et cette colère, elle vient de là. Et donc, effectivement, Agnès Levallois a raison, il n'y a plus d'État. Et ça, les Libanais le savent depuis longtemps. On se débrouille tout seul, enfin, ceux qui sont là-bas. Et nous aussi, parce qu'on a beaucoup aidé la famille pendant la guerre. Ils venaient, enfin, je veux dire, il y a toujours eu un contact. On va là-bas, on les reçoit quand... voilà.
Et on est donc dans un contexte compliqué, y compris
il
international.
Faut changer, et effectivement, et donc que Macron dise le système est pourri, ben il a raison, si c'est le premier à le dire, et ben tant mieux.
Et contexte compliqué, y compris voilà. International,
exactement,
je voudrais qu'on y vienne. Il y a les tensions récurrentes avec Israël au sud, et puis au nord et à l'est, le Liban partage une longue frontière avec la Syrie. Entre 1 million et 1,5 million de réfugiés de la guerre en Syrie vivent sur le sol libanais. Mathieu Lignot et Aurélie Saner.
Le Liban, terre d'asile pour près d'un million de Syriens. Ils ont fui la guerre depuis 2011. Beaucoup sont arrivés dans la plaine de la Bekaa. Djihad Al-Mohalem est le maire de cette ville de l'est du pays. Ses camps de fortune ont été multipliés par 5 sur sa commune.
Marhaba.
Dans chaque camp, il y a entre 50 et 70 tentes, et dans chaque tente, pas moins de 10 personnes.
Djihad Al-Mohalem essaye de s'occuper tant bien que mal de ses réfugiés, scolariser les enfants et trouver du travail pour les adultes. Mais la situation a trop duré pour ce Syrien.
On a besoin d'une solution politique. Tout le monde a envie de rentrer. Notre patrie nous est chère, mais la situation ne nous rassure pas.
Bien sûr, nous sommes pour leur retour, pour que nous puissions trouver une stabilité, du travail et régler la question du manque d'électricité, de l'eau. Donc nous soutenons aussi fortement l'idée du retour.
Liban et Syrie, deux pays voisins aux liens géographiques et politiques. L'armée syrienne a occupé pendant 29 ans le Liban. En 2005, Rafik Hariri, ancien chef du gouvernement, est tué dans un attentat. Les services secrets du président syrien Bachar al-Assad seraient à la manœuvre. Face à la pression de la communauté internationale et des manifestants libanais,
nous demandons à l'armée syrienne de partir, de nous laisser tranquilles.
Les troupes de Bachar al-Assad plient bagage. Mais la Syrie compte toujours un allié puissant au Liban, le Hezbollah, une organisation politique chiite proche de l'Iran et une milice armée. Alors quand la guerre civile éclate en Syrie, le Hezbollah dirigé par Hassan Nasrallah envoie ses combattants à la rescousse du régime d'Al-Assad.
Nous serons là où cela sera nécessaire. Nous continuerons d'assumer la responsabilité que nous devons assumer. Il n'y a pas besoin d'en dire plus.
La Syrie a besoin du Hezbollah, mais aussi des banques libanaises. Elles financent l'économie syrienne. Mais avec la crise financière qui frappe le Liban, la machine s'est grippée et les deux pays sombrent. Un effondrement économique renforcé par de récentes sanctions américaines. Elle vise tous ceux qui aident Bachar al-Assad. Alors encore une fois, le Hezbollah réaffirme son soutien à son allié.
Aujourd'hui, je voudrais assurer au peuple syrien et à tous ceux qui s'intéressent au Liban, à la région et au sort de la Syrie, que les alliés de la Syrie qui se sont tenus à ses côtés durant les guerres militaires, sécuritaires et politiques, même si leur situation est difficile, n'abandonneront pas la Syrie face à la guerre économique et n'autoriseront pas sa chute.
Le conflit syrien a pourtant coûté très cher à son voisin libanais. Selon la Banque mondiale, la guerre serait responsable d'une hausse de 7,1% du taux de pauvreté au Liban.
Agnès Levallois, question téléspectateur pour vous. Quel est l'impact de la guerre de Syrie sur le Liban ?
Alors c'est un impact très important puisque les deux pays sont très proches et qu'au début de la guerre en Syrie, il y a eu beaucoup de Syriens qui sont allés au Liban et que le Liban au départ n'a pas du tout contrôlé ces mouvements de population. On parle aujourd'hui de plus d'un million de Syriens au Liban, ce qui représente un poids évidemment sur l'économie libanaise qui est très mal en point et qui en même temps a eu un autre effet, c'est que ça a permis aussi à de l'argent d'arriver au Liban puisque beaucoup de Syriens disposent d'une aide internationale en dollars et donc qui permet aussi, d'une certaine manière, à une partie de l'économie libanaise de fonctionner. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée entre, d'un côté, un poids évident sur les infrastructures libanaises qui ne sont pas en mesure d'absorber la présence d'au moins un million de Syriens et, en même temps, un peu d'argent qui a été injecté grâce à cette aide internationale versée à ces réfugiés qui sont dans le pays.
Anthony, 1 million à 1,5 million de Syriens dans un pays de 4,5 millions d'habitants. On imagine la proportion, c'est énorme.
C'est énorme. Ça voudrait dire qu'en France, on a accueilli en quelques semaines ou quelques mois quelque chose comme 15 millions de personnes. Vous imaginez un peu ? Donc, effectivement, Agnès Levallois avait raison de souligner que c'est à la fois un effort de solidarité qu'a fait le Liban, parce qu'en fond, les deux pays sont des pays frères et sœurs, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il n'y a pas moyen de faire véritablement la différence, du moins à la frontière, entre les types de population. Ensuite, c'est pas seulement effectivement des réfugiés qui ont traversé la frontière, ouais. C'est aussi toute la classe moyenne, la classe supérieure libanaise, syrienne, qui est venue se réfugier à Beyrouth. On peut voir aujourd'hui des médecins syriens.
Pourquoi va-t-elle à Beyrouth ? Parce que c'est à côté. On dit depuis le début de cette émission que c'est un pays à terre.
Oui, c'est un pays à terre mais depuis 6 mois. mais pas 6 mois avant. Ouais. 6 mois avant, jusqu'au moment où la crise économique libanaise, enfin en tout cas l'effondrement économique a fini par rattraper le Liban. Le Liban était un pays c'est un pays par exemple qui servait des taux d'intérêt pour les comptes bancaires placés au Liban de 15, 20, 30 ou 40%. Je ne dis pas que c'est un signe de bonne santé. C'est plutôt un signe de bulle économique absolument épouvantable. Ouais. Et on avait beau expliquer aux Libanais que c'était pas une bonne idée de mettre leur argent dans des comptes bancaires qui rapportaient 30%, ils continuaient à le faire et à vivre comme si de rien n'était. Donc il y a aussi une partie de responsabilité du système libanais. Mais c'est vrai que le Liban était un havre de paix, et on a beaucoup dit de mal, en fait, de ce système politique, et on a raison de le faire. Moi, il ne m'est pas particulièrement sympathique, ce système confessionnel et politique, qui est effectivement un système corrompu, un système clientéliste, un système clanique, mais il a quand même permis, aux pires heures de la guerre civile syrienne, de maintenir une sorte de paix sociale et de paix tout court dans un pays, parce qu'en fait, ce système libanais, qu'est-ce qu'il dit ? Ce système politique et clanique libanais, c'est très simple. C'est aucune des 18 communautés ne prévaut l'une sur l'autre, quel que soit son poids démographique. C'est-à-dire que non, les chiites ont du pouvoir, mais ne prévalent pas sur les chrétiens, ne prévalent pas sur les sunnites, ne prévalent pas sur les arméniens, ne prévalent pas sur les 15 autres. Et donc ce système d'équilibre précaire, mais d'équilibre tout de même, effectivement avec des prébendes pour que chacun puisse vivre, avec un clientélisme éhonté, avec une corruption endémique, mais il a quand même permis à ce pays de se survivre à lui-même et une certaine concorde civile tout de même. C'est pas pour rendre un hommage appuyé au système libanais, c'est pour expliquer quand même que le Liban en parle maintenant, mais que pendant 10 ans, alors que le pays d'à côté s'auto-détruisait, eh bien le Liban continuait à se survivre à lui-même.
Yannick Halimi.
Juste peut-être petit détail quand même important, c'est vrai que le Liban a représenté, je parle sous votre contrôle, une image de pays démocratique, multiculturel. N'oublions pas quand même que depuis quelques décennies, Anthony Bélanger n'allait pas, me nier ce que je vais dire, c'est quand même un pays qui est sous la botte. Ça a été sous la botte de la Syrie à un moment, et puis du Hezbollah et des chiites. Alors l'équilibre dont vous parlez, Anthony, il est peut-être institutionnellement parlant installé, il n'empêche que c'est plutôt la communauté chiite qui garde quand même, on ne sait pas, on n'a pas de statistiques, on ne sait pas s'ils ont la majorité dans l'absolu, en tout cas c'est la communauté, en tout cas religieuse, la plus importante. Ça c'est vrai, mais n'oublions pas quand même, et c'est quand même une des raisons aussi qui explique pourquoi le Moyen-Orient est devenu aussi abrasif, une des raisons, notamment dans les années 70, c'est que Israël ne voyait pas que le Liban en tant que telle société démocratique et multiculturelle à ses portes, c'est qu'il y avait la Syrie de la famille Assad et ensuite le Hezbollah à sa porte, et puis plus qu'à sa porte, enfin qui s'introduisait aussi à travers le plateau du Golan. Donc ne faisons pas non plus d'un idéal une réalité un peu trop naïve.
J'ajoute qu'à l'instant, Emmanuel Macron annonce une conférence internationale d'aide pour le Liban dans les prochains jours. Il y a un nom de pays qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette émission, Antoine Basbous, États-Unis.
Oui, mais vous savez, le président américain est quelqu'un qui est en train de déstructurer l'ordre mondial dont il avait hérité. Regardez ce qu'il fait avec l'OTAN. Regardez ce qu'il fait avec l'Union européenne. Regardez le retournement de la diplomatie américaine par rapport à la Russie. Dans le Golfe, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le retrait. Donc c'est la Chine qui remplace les États-Unis dans le Golfe. Et au Liban, c'est la politique israélienne qu'a épousé M. Trump à travers notamment son gendre Kouchner. Donc voilà, c'est l'abandon. C'est juste la matraque israélienne entre les bras américains et c'est destructeur pour le Liban.
Je rappelle que juste quelque chose.
On a un tout petit mot, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on en vienne aux questions téléspectateurs.
Israël a étonnamment fait preuve d'une certaine solidarité, alors bien sûr de propagande, hier ou avant-hier, en expliquant qu'il fournirait, si le Liban le demanderait, ce qu'il ne demandera pas d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de relation diplomatique entre le Liban et l'Israël, une aide humanitaire. C'est bien normal en ces périodes-là. J'ai pendant un moment pensé qu'il s'agissait de propagande. En fait, non. Je pense qu'il s'agit vraiment de Israël tente en ce moment un coup, qui est un coup peut-être diplomatico-propagandement, qui consiste à dire, et si une partie de la population libanaise avait envie d'une pacification avec le Liban, comme aujourd'hui la Jordanie est un pays pacifié avec Israël. C'est un coup, mais il faut peut-être le regarder. C'est un coup d'autant plus intéressant que je rappelle qu'il y a une alliance tacite entre Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et que ces deux pays-là ont maille à partir avec le Liban, ont des choses à dire sur le Liban.
Allez, nous en revenons à vos questions. Le Liban est-il en mesure de répondre aux demandes du président Macron, nous dit Anne dans la Drôme. Agnès Levallois.
Je crois que si la France entend les revendications des mouvements politiques qui s'expriment aujourd'hui au Liban, oui, il y a quelque chose qui est tout à fait possible. Et donc le Liban, une partie des Libanais en tous les cas, est tout à fait d'accord, a envie d'autre chose et a exprimé en tous les cas sa volonté de sortir de ce système tel qu'il perdure maintenant depuis des dizaines d'années. Donc il faut que les Libanais s'expriment, mais que aussi la France et la communauté internationale entendent ces voix qui s'expriment et qui sont des voix auxquelles il faut vraiment prêter attention, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, et ça je pense qu'il faut vraiment le préciser.
Et Antoine Bazouze, le président Macron a une influence sur les pays européens, américains, saoudiens, pour cela ?
D'abord, aucun chef d'État étranger, fût-il arabe, ne s'est manifesté pendant ce drame, cet apocalypse de Beyrouth. Donc le président Macron est le seul à se présenter, à aller sur place.
Et donc, au début de l'émission, il occupe un vide aussi.
Et du coup, il devient le chef, le leader de ce mouvement. Et donc c'est vers lui que vont tendre les efforts des pays arabes et de la communauté internationale et surtout de l'Union européenne. C'est le seul qui a pris la légitimité et qui a rallié un peu le peuple et qui a pris des positions et qui a pris le risque de se rendre à Beyrouth par ces temps-là.
Nadia Kouridaguer, les hôpitaux sur place parviennent-ils à faire face ?
Alors, ils font face, j'imagine. Si vous avez 30 lits, vous avez 30 lits et peut-être vous allez mettre des matelas par terre. C'est, en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est qu'en fait, ce sont les Libanais qui assurent, on l'a vu, qui transportaient les blessés, etc. Et sur le terrain, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un petit-neveu qui s'appelle Nadim, qui a 22 ans, qui est diplômé de l'Université américaine du Caire, en Business Administration. Ça fait 2 ans qu'il est au chômage, comme tous ses copains de promo. Il est bénévole à la Croix-Rouge. Il ne veut pas quitter le Liban parce qu'il se sent utile. Et ce qu'il me dit, et ça rejoint, c'est qu'en fait, sur le terrain, il n'y a jamais de responsable politique. Autrement dit, à aider les Libanais au quotidien, les Libanais, ce sont eux qui sont en train de remplacer l'État. Et ce qui est important, c'est qu'il me semble qu'au XXIe siècle, la politique a changé. On ne parle pas d'homme politique à homme politique ou de pays à pays. La société civile est très importante. La société civile libanaise a montré depuis octobre, depuis même la manifestation après l'assassinat de Hariri, qu'elle est unie au-delà des clivages. Et je crois qu'aujourd'hui, comme disait Agnès, il faut entendre cette société civile. On a eu le mouvement, enfin, je ne vais pas parler de ça, mais des Gilets jaunes en France, la société civile s'exprime plus ou moins violemment. Voilà, et il faut l'entendre pour que ça ne dégénère pas en émeute de la faim, que ça ne dégénère pas en violence. Et aujourd'hui, cette société civile a montré qu'elle pouvait s'organiser, parce que sur le terrain, c'est elle qui fait vivre, qui soigne, qui éduque, etc., les Libanais, et donc il faut l'entendre, ils sont majeurs. Voilà, c'est tout.
Sur les hôpitaux, on peut juste répondre une petite chose.
Sur les hôpitaux, oui.
Dans la question de votre téléspectateur, ils ont été touchés tout simplement par le souffle de l'explosion. Oui. En grande partie, il y en a au moins 3-4 qui ont été quasiment rasés, enfin en tout cas très endommagés. Deux, visiblement en plein Beyrouth, fonctionnent encore. Et puis il y a un autre détail et qu'il faut souligner, c'est que sur ce port où étaient stockés les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, il y avait aussi des stocks de médicaments et des stocks de grains. C'est-à-dire qu'en soufflant le port, on a aussi ouvert des réserves de médicaments qui auraient été dont les hôpitaux ont cruellement besoin aujourd'hui. J'espère que ça répond à votre question.
C'est parfaitement clair. Jannick Halimi, Emmanuel Macron peut-il perdre des plumes dans cette histoire? C'est la question du risque que vous évoquiez au début de l'émission.
J'évoquais ce risque-là. Alors, écoutez, sur la scène politique, on peut estimer qu'il n'a pas joué un coup au regard de la politique intérieure. On peut créditer ça de la part d'Emmanuel Macron. On peut estimer l'électorat, pour parler véritablement de façon presque triviale, l'électorat libanais en France n'est pas si déterminant pour que ce soit un coup politique. On sait qu'il est allé pendant la campagne, en janvier 2017, donc avant qu'il ne soit élu, à Beyrouth, au Liban, parce qu'il y avait une communauté de Français, d'électeurs français là-bas. Bon, voilà, donc il n'y a pas d'élément électoraliste dans cette démarche. Donc si jamais, entre guillemets, il y a un échec, je ne sais pas comment on le qualifierait, il pourrait avoir des répercussions sur la scène politique française, je n'en sais rien, je ne pense pas. En revanche, si les choses se passent mal d'une façon ou d'une autre, s'il est stigmatisé tout de même par une partie peut-être de l'opinion publique, en tout cas du corps politique, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin il existe, il est là, du corps politique libanais. Si une polémique monte autour de cet interventionnisme de la France, pas d'Emmanuel Macron, ça pourrait avoir des répercussions sur la scène internationale par le fait que la dynamique qu'il aurait pu enclencher à condition d'entraîner la communauté internationale quelle qu'elle soit, risque de faire pchit. Là, ce serait dommage, effectivement, que son opération échoue. Au regard des risques d'interventionnisme, donc on pourrait le taxer, échoue. Et puis, ça pourrait aussi, mais ça, je ne le pense pas, devenir une sorte de polémique sur la politique intérieure. Je pense que pour le coup, on en est loin.
Antoine Basbous, en précisant qu'il nous reste 2 minutes, que pense la Syrie de cette visite d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus?
Je n'ai pas vu des réactions syriennes, mais évidemment, les Syriens ont, le soutien du Hezbollah qui a sauvé le soldat Assad. Et nous avons vu sur l'écran tout à l'heure Nasrallah qui dit « J'envoie mes hommes en Syrie pour soutenir le régime syrien ». Donc ce n'est pas une affabulation, c'est quelque chose de revendiqué par le Hezbollah. Donc tout ce qui contrarie la puissance du Hezbollah au Liban et le système installé par le Hezbollah, eh bien, contrarie la Syrie et ne sera pas bien vu par Damas.
Agnès Levallois, on y vient à l'ONU. L'ONU est-elle intervenue? Quels moyens a-t-elle au Liban? Pas intervenue, j'imagine, depuis la double explosion, mais intervenue ces dernières années.
Non, on voit bien que l'ONU est présente à travers la FINUL, qui est cette force qui est au sud du Liban et qui est censée contrôler la situation. Donc l'ONU quand même s'intéresse de près à ce qui se passe au Liban. Mais là, on voit bien que dans le cas précis, il y a cette volonté de la communauté internationale et l'ONU peut être sollicitée dans le cadre de cette fameuse enquête internationale qui, là, devra effectivement pouvoir apporter des réponses aux questions qui sont posées par cette terrible explosion.
L'ONU est très présente, au contraire, est très présente au Liban et très importante. L'ONU garantit le droit international, l'ONU par le biais de la FINUL est là, l'ONU par le biais de ses agences internationales sont là, je pense à l'UNESCO, je pense aux agences qui apportent
l'ONU.
Au programme alimentaire mondial. Non, l'ONU en plus dit le droit et garantit, par exemple, peut garantir une intervention de la France si elle doit intervenir plus. L'ONU a toujours été présente au Liban, et y compris par le biais de l'agence des réfugiés dans les camps palestiniens.
Anthony, l'émission est
très importante.
Merci beaucoup Anthony Bélanger, merci à tous d'avoir participé à cette émission rediffusion ce soir. Et pour le direct, je vous retrouve avec grand plaisir demain à partir de 17h45.